Europe 1 Soir Weekend, Pierre de Villeneuve.
Panorama jusqu'à 19h, les débats de Panorama intitulés « Taper pour se faire entendre », c'est visiblement le seul moyen pour obtenir des garanties. Cela a encore été le cas avec les agriculteurs qui menaçaient tout simplement de bloquer le pays. C'est donc en marge de la démocratie et de toute forme institutionnelle que le rapport de force s'établit. Mais alors à quoi sert la démocratie et a fortiori représentative? On en parle avec les invités. Bonsoir Jean Garrigue.
Bonsoir.
Vous êtes historien, président du comité d'histoire parlementaire, auteur de « Jours heureux quand les Français rêvaient ensemble ». C'est publié chez Payot Histoire en octobre dernier. Bonsoir Sébastien Abyss.
Bonsoir.
Géopolitologue, spécialiste des questions agricoles, chercheur à l'IRIS, président du Club Déméter, auteur de « Veut-on nourrir le monde ? Franchir l'Everest alimentaire en 2050 ». Le Club Déméter, je le signale, qui fera un colloque le 15 février prochain en partenariat avec l'IRIS sur le sujet « Mondes agricoles, cultiver la paix en temps de guerre ». Mais d'abord, quelques points d'histoire sur cette fronde des agriculteurs. Bonsoir Capucine Patouillet.
Bonsoir Pierre.
Revenons avec vous sur les révoltes agricoles marquante au XXe siècle.
Oui, puisque de la révolte des vignerons du Languedoc en 1907 à l'opération coup de poing de la Confédération paysanne et de José Bové contre le McDo de Millau en 99, en passant par la lutte du Larzac dans les années 70 ou encore la grève du lait en 2009, eh bien plusieurs crises ont poussé les agriculteurs à donner de la voix pour se faire entendre de l'État. En 1907, le cabinet de Georges Clémenceau se heurte à ce que l'on surnomme aussi la révolte des gueux du Midi. Les vignerons s'opposent alors à l'importation des vins d'Algérie, mais aussi contre l'achat qui consiste à ajouter davantage de sucre dans le moût du raisin pour augmenter sa teneur en alcool. Alors manifestation, 7 civils tués tout de même, les négociations finissent par aboutir à la publication d'un décret stipulant qu'aucune boisson ne peut être détenue ou transportée en vue de la vente ou vendue sous le nom de vin que si elle provient exclusivement de la fermentation alcoolique du raisin frais ou du jus de raisin. Le service de répression des fraudes est par ailleurs créé le 21 octobre 1907.
Et donc 1907 est la première trace de manifestation agricole moderne.
Oui, alliant défilé sur la voie publique, prise de parole, entrée en communication avec les autorités, la grève des petits pois dans le Finistère en 1938 introduit le principe de destruction des denrées. Un épisode marquant à ce sujet, c'est la guerre de l'artichaut qui a duré 10 ans entre 1957 et 1967. À cette époque, la France fait face à une surproduction d'artichauts, inexportables dans des pays d'Europe du Nord qui préfèrent le chou-fleur et invendable à une population qui considère alors ce légume comme quelque chose de très cher. Donc la crise oppose non seulement les producteurs entre eux, puisqu'il y a concurrence sur les preneurs, mais aussi les producteurs aux négociants expéditeurs. Ça vous rappelle quelque chose?
Oui, c'est pourquoi Coluche a créé la blague de l'artichaut qui était soi-disant le plat du pauvre, parce qu'il y en avait plus dans l'assiette une fois qu'on avait terminé l'artichaut qu'au début. Qu'en est-il des barrages routiers?
Alors les premiers apparaissent dans les années 50, comme par exemple à l'été 1953. Cette année-là, entre 300 et 500 barrages sont organisés par le comité régional de salut viticole dans le sud de la France.
Merci Capucine Patouillet. Jean Garrigue, je le disais tout à l'heure, cette crise agricole, en tout cas début 2024, parce qu'il y en a eu d'autres, comme vient de le dire Capucine, et puis il y en aura sans doute d'autres et le salon de l'agriculture approche, elle a été réglée entre guillemets par Gabriel Attal, non pas à la première salve, à la deuxième salve de mesures, mais à la troisième salve de mesures. Première question, et il y en aura deux. Première question, est-ce qu'il n'y a pas un totem des agriculteurs en se disant, franchement, on ne peut pas vraiment négocier politiquement avec ceux qui nous nourrissent? Et puis deuxièmement, et c'est un peu l'intitulé de notre sujet, est-ce qu'il faut taper du poing sur la table pour se faire entendre?
Bon alors d'abord, bravo pour ce petit résumé historique. On pourrait ajouter des tas de révoltes paysannes, y compris dans les années 30, où elles flirtaient certaines organisations, ce qu'on appelait chemise verte, avec l'extrême droite, comme une partie de ceux d'ailleurs qui ont manifesté, mais minoritaires dans la crise qu'on vient de vivre. Non, il y a une vieille tradition de révolte paysanne, ou révolte agricole, qui ont toujours utiliser des moyens de pression effectivement extra-parlementaires. On peut d'ailleurs montrer qu'aujourd'hui, il y a très très peu de députés paysans, de députés issus du monde agricole.
Il y a quelques sénateurs, il y a plus de sénateurs
voilà,
que de députés.
Ouais. Voilà. Il y en avait beaucoup plus à l'époque, ce qui permettait d'avoir un relais parlementaire beaucoup plus puissant. C'est tout bête, mais c'est quand même quelque chose qui n'est pas négligeable. Et puis on sait ce qui est dit aujourd'hui sur les élites politiques un peu déconnectées des territoires. Ce sont des éléments qui ont pu jouer. Donc il y a effectivement des moyens extra-politiques qui ont été employés, en tout cas hors de la politique, mais ça fait partie de ce qu'on appelle le politique, hein, la gestion de la cité. Et puis quant à dire qu'il faut taper du poing, je le répète, c'est quand même le principe des mouvements sociaux. Je crois qu'il faut un peu relativiser tout ça. Il y a aussi des réformes qui avancent dans un sens ou dans un autre par le biais du système, de notre système politique. Ouais. Alors, si vous me dites que effectivement dans la configuration actuelle de la vie publique avec une majorité relative, c'est évidemment très compliqué sous la Ve République de produire de la réforme, de produire de la politique, et donc eh ben, on se retrouve effectivement à passer par des canaux qui sont différents et qui sont notamment ceux de la protestation sociale. Mais là encore, il faut relativiser parce que ça toujours existé. Je veux dire qu'au moment de la crise des retraites, on faisait allusion à ce qui s'était passé en 1995, par exemple, où il y avait eu un mouvement extrêmement ample. Je pense, relativisons un tout petit peu, mais certainement, il y a la spécificité d'aujourd'hui. Au-delà d'une crise des vocations, de l'engagement, de la participation à la vie publique, il y a effectivement ce problème d'une majorité relative, donc une majorité faible, d'un pouvoir exécutif qui a des difficultés à réformer et qui donc va être d'autant plus sensible à la pression des mouvements sociaux.
Sébastien Abyss, qu'est-ce que ça vous inspire, sachant que cette colère des agriculteurs français, elle rentre également dans le giron d'une colère globale qui a commencé aux Pays-Bas, je crois, en 2022, qui ensuite il y a eu les Polonais, les Allemands. Là, tout à l'heure, on a eu une dépêche comme quoi à Genève, il y avait une trentaine. La Suisse, qui est toujours très, assez sage, hein, c'est un pays où il ne se passe pas grand-chose. Là, on a une trentaine de tracteurs à Genève. Je peux vous dire, c'est l'équivalent d'un très, très grand événement là-bas.
Oui, en complément de ce qui a été dit, c'est vrai que le temps long souvent est important parce que ça permet de relativiser aussi certaines émotions très court-termistes et à la fois ce que vous venez de mentionner, c'est-à-dire les revendications agricoles des dernières semaines en France, s'inscrivent dans un terrain de jeu européen où finalement très peu de pays n'ont pas vu de mouvement agricole contestataire et généralement les revendications se cristallisent autour de trois grands sujets. La confiance, est-ce qu'on fait confiance aux mondes agricoles pour faire leur métier et puis de faire les transitions qu'on leur demande de faire depuis des années. Est-ce que finalement il y a de la cohérence dans tout ce qu'on leur demande et les normes, etc. Et puis un peu de constance aussi dans les politiques publiques et peut-être dans les pratiques de consommation dans un monde qui court, qui galope, qui est très très court-termiste et qui est même obnubilé par l'instantané. On a un monde agricole qui est par définition sur le temps très long. Donc en fait, je pense que ces mouvements européens ont eu des facteurs déclencheurs différents. On a vu qu'en Allemagne c'était beaucoup le prix du carburant. En France, il y a eu différentes revendications. Aux Pays-Bas, c'était sur l'arrêt d'une grande partie de l'élevage. C'était un autre sujet. En Italie, c'est la viande de synthèse qui suscite les passions. Donc, néanmoins, constance, cohérence, confiance, c'est vraiment trois mots-clés pour moi qui cristallise un peu les mouvements des derniers mois. Je voudrais quand même signaler deux choses. De toute façon, l'histoire est émaillée d'exemples où parfois les mondes agricoles et ruraux ont su contester le pouvoir en place, la politique menée dans un pays, c'est omniprésent dans les pages d'histoire, dans l'ensemble des continents du monde. On peut se souvenir même à très très court terme, il y a 3-4 ans, en Inde, cette démocratie imparfaite finalement, mais quand il y a 1,5 milliard de personnes, c'est forcément compliqué de pratiquer la démocratie. Il y a eu des dizaines de millions d'agriculteurs indiens qui sont venus dans les grandes villes et protester contre les réformes du gouvernement Modi autour des réformes foncières, etc. Il y avait des dizaines de millions de paysans indiens qui ont débarqué dans les villes. Mais je voudrais quand même mentionner une deuxième chose, si vous me donnez
Allez-y.
C'est que la spécificité de la gronde agricole, c'est qu'elle a un miroir qui est la contestation de l'insécurité alimentaire. C'est-à-dire qu'on a énormément de pays dans le monde, démocratiques ou non, où quand les populations ont un problème alimentaire de quantité, éventuellement de qualité, on a tout de suite une peur, des agitations. L'histoire, là aussi, est riche
d'enseignement. Un pays qui n'a pas de production agricole est un pays vulnérable, un pays qui n'est pas en sécurité alimentaire. C'est un système politique, qu'il soit autoritaire ou démocratique, c'est un système politique dont les jours sont souvent comptés.
Vous citiez l'Inde, Sébastien Abyss, où effectivement on ne peut pas mettre tout le monde d'accord vu le nombre d'habitants. Donc ce que vous diriez, vous, ce n'est pas qu'on dénigre la démocratie, qu'elle soit représentative ou pas, c'est que de toute façon c'est normal parce que on ne peut pas mettre tout le monde d'accord. Mais dans ce cas-là, j'en reviens à mon point, j'ai l'impression que c'est un animal qui se mord la queue. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, sur certains sujets, se baser uniquement sur le fonctionnement des institutions.
C'est compliqué. Je pense que ce qui est la difficulté peut-être de nos systèmes européens actuellement, c'est qu'en fait, il faut accepter que quand on aime beaucoup la démocratie, parce qu'on a peut-être eu la chance de voir des systèmes non démocratiques et qu'on s'est rendu compte que c'était quand même bien mieux la démocratie, on a le droit de critiquer. Hein, donc on a le droit de critiquer un système pour le rendre meilleur. Bon, donc ça, il faut accepter qu'en démocratie, il y a des avis contradictoires, tout le monde ne pense pas la même chose, il y a des combinaisons de réflexions, il faut accepter cette grande diversité, et l'accepter, ça veut dire qu'on essaye de comprendre pourquoi des gens ne sont pas d'accord, pourquoi des gens sont réfractaires à certains changements, pourquoi ils ne sont pas à l'aise avec certaines réformes. Mais on évite justement les radicalisations, les violences, puisqu'on est dans un système démocratique, et donc il faut être à la fois à l'écoute des différences, mais en même temps, il faut qu'il y ait un système où, bah, s'il y a des représentants élus, bah, on accepte aussi ce jeu-là, et qu'on accepte de faire confiance dans les deux sens. Moi, ce qui m'a frappé ces derniers jours, c'est qu'on a un monde agricole qui a parfois dit, bah, on ne nous fait pas beaucoup confiance, je le mentionnais tout à l'heure. Mais on a vu aussi certains agriculteurs être très méfiants des annonces qui ont été faites par le gouvernement ces derniers jours. Bon, bah, la confiance, elle est circulaire, elle doit marcher dans tous les sens, c'est ce qui fait la force de nos systèmes démocratiques. Ce qui est compliqué aujourd'hui, c'est qu'on doit faire des transitions dans nos modes de vie. Je pense qu'en Europe, en France, le grand enjeu, c'est de comprendre que beaucoup de transitions, c'est plus de contraintes, c'est retrouver certains inconforts, retravailler sur certains domaines d'activité, et que finalement, ça heurte un peu quelques certitudes qu'on a eues au début de ce millénaire. Hein, on est entré dans le 21e siècle en pensant que finalement, ce siècle serait assez cool, pas très insécurisant, que finalement, on pouvait éventuellement moins travailler, puis qu'il y avait des secteurs moins importants que d'autres. L'industrie, l'agriculture, c'était fini. En fait, non, c'est un peu plus compliqué que ça. Et on a même peut-être plus besoin d'industrie et d'agriculture que jamais aujourd'hui, compte tenu des transitions qu'il faut faire et la grande sortie du tout pétrole. Parce qu'en fait, la sortie du tout pétrole, ça veut dire travailler plus, avoir des coûts de production sans doute supplémentaires et avoir une pénibilité et un temps de travail à certains égards qui peut être réamplifié. Il faut réapprendre de nouvelles choses. Ça, c'est pas simple, parce que cette complexité-là fait que l'exercice politique se heurte aussi à un état d'esprit qui, peut-être, a perdu cette espèce de vigueur joyeuse collective à faire ensemble pour transformer l'actuel et faire surtout que demain soit bien meilleur qu'hier et qu'aujourd'hui.
Jean Garrigue, les petits détournements de démocratie, c'est un petit peu comme les petits mensonges, c'est autorisé en fait.
Non, mais là, on n'est pas dans un détournement de démocratie. La démocratie.
Je vous dis ça de façon provocante, évidemment.
Bien sûr, la démocratie, ce sont des institutions, des acteurs politiques, et parmi ces acteurs du politique, il y a les mouvements sociaux, et on est dans quelque chose là, hormis ceux qui... c'est un problème qui s'est posé, notamment au moment de la crise des Gilets jaunes, que certains mouvements sociaux, parfois, utilisent des moyens qui se mettent en contravention avec la loi. Et là, ça pose une vraie question, est-ce qu'il faut les accepter, comment faut-il les gérer, faut-il les réprimer, faut-il les condamner ou au contraire les admettre comme expression populaire. Donc si vous voulez, ce qui se passe avec les paysans et qui s'est passé à toutes les époques et sous tous les régimes, c'est l'expression d'une colère, d'une incompréhension de la part d'une partie de la population. Effectivement, ce monde de agricole est un monde qui s'est senti aujourd'hui incompris. Je pense que s'il y a un effet marquant d'ailleurs de ce mouvement, c'est d'avoir montré à quel point justement il était soutenu par une grande majorité de la population, à quel point les Français aimaient leur monde agricole. Mais ça, en fait, on n'en doutait pas. C'est tous les sondages depuis des années le montrent, et ça fait partie, je le répète, de notre vie démocratique. Ce qui fait moins partie de notre vie démocratique, c'est la manière dont des partis politiques, des acteurs politiques contestent d'une manière plus ou moins forte les institutions. Par exemple, ce qui s'est passé récemment autour du rôle du Conseil constitutionnel.
Oui.
On peut réfléchir à ce que, au mode d'élection, au mode de nomination des juges du Conseil constitutionnel, on peut émettre des réflexions, mais ce qui se passe depuis quelques années, c'est une critique systématique et venant de l'intérieur même du système d'un certain nombre d'institutions clés de la démocratie, y compris le président de la République, du Parlement, etc. Alors l'antiparlementarisme, ça a toujours existé. On l'a trouvé d'ailleurs à certaines époques dans le mouvement paysan comme un critère extrêmement fort, mais pas seulement d'ailleurs chez les paysans, parmi les classes moyennes aussi. Donc on a quelque chose on a des critiques qui ont toujours existé, mais depuis quelque temps, cette petite musique qu'on entend, notamment dans les médias, émanant d'acteurs politiques même, là, elle me paraît beaucoup plus inquiétante, si vous voulez, que l'expression de mouvements sociaux comme ceux des paysans.
Oui, vous avez raison de le souligner. On vous réinvitera pour un autre débat sur la légitimité d'un conseil constitutionnel qui est présidé par un ancien Premier ministre socialiste dans une institution qui est censée être impartiale et jugée en droit et non pas sur la politique. Vous avez tout à fait raison de le dire, ça pose une vraie question sur les paysans et sur le rôle aussi et sur les déclarations des hommes et des femmes politiques cette dernière semaine sur les agriculteurs. Vous auriez remarqué, Jean Garrigue, il y a une sorte de déférence, c'est-à-dire qu'on critique les agriculteurs, on dit que c'est quand même pas correct ce qu'ils font, qu'ils bloquent la France, mais c'est quand même ceux qui nous nourrissent, quoi. Il y a une sorte de totem, il y a une sorte de frein quand même, c'est une sorte d'ambivalence, on n'arrive pas totalement à les critiquer.
Alors, c'est certain qu'il y a une spécificité de la représentation collective de ce monde rural dont la plupart des familles françaises sont issues à plus ou moins longue échéance et puis qui est, je dirais, la terre nourricière des Français.
C'est comme le pain on ne peut pas jeter, c'est-à-dire vous pouvez jeter des déchets alimentaires que vous n'avez pas fini votre assiette, les arêtes de poisson, etc. Mais le pain, voilà, on en fait du pain perdu, on donne aux oiseaux, peu importe, mais on ne le jette pas, on le bouffe, quoi.
Exactement, le pain c'est la mère de toutes les batailles et c'est autour du pain que s'étaient produites les grandes insurrections, notamment au moment de la Révolution française. En réalité, c'était tout autre chose, la Révolution française. Mais en tout cas, on voit bien à quel point c'est important, à quel point symboliquement le monde rural a une place très particulière dans notre inconscient collectif. Donc c'est normal aussi que le traitement qui lui est, on l'a bien vu, qui lui est assigné, surtout après la crise des Gilets jaunes, qui a été quelque part aussi une représentation d'une France périphérique qui se sentait oubliée, même si ce n'était pas un mouvement rural spécifiquement. Il y a vraiment une spécificité qu'on a bien vu au moment de cette crise.
Sébastien Abisse, je profite de votre présence à l'antenne et votre spécialité dans notamment l'analyse de ce qu'on appelle le grenier de l'Europe, en l'occurrence l'Ukraine. Ça a été évoqué dans les négociations avec les agriculteurs et avec le gouvernement que oui, effectivement, Emmanuel Macron, après être passé voir Madame von der Leyen, il pourrait qu'il y ait des négociations aussi sur ce fameux grenier ukrainien.
Oui, parce qu'en fait l'Ukraine, certains qui ne suivent pas le sujet agricole ont découvert depuis 2 ans avec ce conflit qui s'est intensifié, ça fait quand même 10 ans que ce pays est en guerre, il faut pas l'oublier, l'Ukraine est une très très grande puissance agricole, à la fois historiquement, mais c'est vrai que depuis 10-15 ans c'est un pays qui a vraiment développé son agriculture, c'est le cœur de son économie, c'est essentiel pour son commerce, c'est un grenier sur le plan céréalier mais également sur l'huile de tournesol dont une partie du monde dépend parce que ça représente un fournisseur important. Et c'est vrai qu'en fait, on a eu une action de solidarité légitime envers l'Ukraine qu'il faut continuer à cultiver, mais qui a permis à ce pays d'avoir un accès beaucoup plus simplifié au marché communautaire européen. Il y avait un accord d'association qui avait été signé dès 2014, justement au début de ce conflit. Et l'Europe a décidé au printemps 2022 de libéraliser complètement les échanges avec l'Ukraine pour favoriser justement une espèce d'aide économique et faciliter pour ce pays d'exporter une partie de ces marchandises par le continent européen et non plus par la mer Noire, à plus forte raison que cet espace maritime a été fermé par les forces russes pendant plusieurs mois.
Ouais. Et c'était devenu très dangereux.
C'était devenu très dangereux. Donc la logique a été d'aider l'Ukraine pour que son économie, et notamment agricole, puisse continuer à trouver de l'oxygène, respirer, de la logistique, donc passer par la voie européenne. Ce qu'on a très mal anticipé, enfin certains spécialistes avaient émis très vite l'alerte autour des conséquences par le temps de tout ça, c'est que beaucoup de produits ukrainiens en fait sont restés sur le marché européen, précisément parce que certains produits sont moins produits en Europe. Je prends l'exemple du poulet, on consomme énormément de poulet en Europe, on n'en produit pas assez par rapport à la demande. Il y a du poulet ukrainien qui est venu massivement s'installer sur des tables européennes. C'est vrai aussi dans le cas du sucre. Et puis on a même eu des céréales, alors qu'on n'en manque pas trop en Europe, on a même des céréales qui sont venues concurrencer en Pologne, en Roumanie, ouais, en Hongrie, en Bulgarie, les productions locales. Et il faut rappeler que l'Ukraine, les coûts de production sont beaucoup plus bas, que les normes sociales et environnementales sont évidemment pas au niveau de performance de celles qu'on impose aux agriculteurs de l'Union européenne.
Et pour faire simple,
quelque part, ça a créé une distorsion.
Il reste 30 secondes, donc du coup, Emmanuel Macron a dit, à un moment donné, on pourra peut-être freiner aussi les importations ukrainiennes parce qu'on a besoin d'aider les agriculteurs français, tout simplement.
Oui, parce qu'il n'y a pas de logique à non au Mercosur et à l'Ukraine. La spécificité, c'est aider l'Ukraine et en même temps, pour l'arrimer aux dynamiques européennes, si ce pays est amené à rejoindre l'Union européenne d'ici quelques années, c'est de le faire monter aux standards. Et ça, c'est le chemin que propose l'Union européenne. C'est aussi une des forces de la démocratie européenne.
Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir témoigné en direct sur Europe 1 sur ce sujet de la crise agricole et sur le fait de taper du poing sur la table pour se faire entendre. Sébastien Abyss et Jean Garry.